partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, bonne journée. Nous sommes le 4 août. Il ne faut pas que je fasse la liaison et dire 4 août, parce que je vous dirais de faire un beau tour de véhicule récréatif, ce ne serait pas correct ça. Alors c'est le 4 août et non pas le 4 août. C'est la nuance qu'il faut faire. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Pendant que nous sommes collectivement tous omnubilés par la COVID, il y a d'autres problématiques dans notre société qui sont également pandémiques. C'est celui de l'obésité en Amérique. Ça tue énormément de gens et ça a des effets secondaires importants, de nombreux cas de diabète. Alors, véritablement, on est devant un problème majeur. Mais voilà que cette maladie que l'on appelle l'obésité est reconnue davantage maintenant et moins traitée, je l'espère, par certains préjugés disant que « t'as rien qu'à faire de l'exercice puis à manger moins, ça va se régler ». Non, il y a, semble-t-il, un problème glandulaire. Avant de parler à un spécialiste du domaine qui est un endocrinologue, nous allons parler à quelqu'un qui a vécu une situation particulière et ce que j'aime de lui, c'est que nous le connaissons tous. De sorte que son message va bien passer. Nous avons été témoins de sa métamorphose. Il s'agit de l'ex-maire de Montréal, M. Denis Coderre, qui est avec nous. Bonjour.
Monsieur Mongrain, mes hommages.
Ah, c'est gentil, merci. Vous n'avez pas changé. C'est toujours les mêmes salutations, mes hommages.
Ça part comme ça.
Ça part comme ça. Denis Coderre, je pense qu'il faut d'entrée de jeu saluer le travail que vous avez fait sur vous-même. Je pense que ce n'est pas seulement un travail physique, cependant. Pourquoi? Est-ce que vous étiez un obèse ou un homme de surpoids?
Moi, je disais toujours à la blague, je pense qu'au nombre de régimes que j'ai fait, j'ai perdu 800 livres. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un désordre? Une chose est certaine, c'est que la complexité de l'État, c'est un peu toujours la quête de l'être versus le pareil. Mais moi, je pense que c'est pas juste physique. Il y a une réalité, je dirais, comportementale, presque mentale en quelque part. Donc, les gens vont dire, tu sais, c'est pas juste un problème de langue, là, mais c'est sûr qu'il y a une certaine pathologie à ça. Il peut avoir une certaine génétique, mais clairement, on a aussi énormément de pression, je vous dirais, de l'environnement dans lequel on est. C'est pas une excuse, mais c'est à mon avis un fait. Deuxièmement, oui, il y a une réalité mentale parce que bien souvent, c'est quand on dit on mange nos émotions, hein? Alors quand on a de la difficulté à prendre une certaine pression où on veut se donner des outils pour passer outre, ben là, à ce moment-là, souvent, on mange. Il y a des gens, par exemple, qui vont vivre à l'extérieur, qui ont le mal du pays, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout seuls, ils vont manger. Donc, il y a une notion, je ne suis pas un expert, là, vous allez avoir votre endocrinologue tantôt qui va parler de maladie, mais c'est très certainement un désordre, à mon avis. Donc, il y a rien des éléments déclencheurs qui provoque, je dirais, une certaine résilience et qui t'amène à faire des changements draconiens. Mais il faut, c'est pour ça que je ne sais pas seulement physique, il y a une réalité mentale là-dedans où il faut qu'il y ait une acceptation de soi puis une capacité presque personnelle de dire « OK, on passe à une autre étape ».
Mais quand
certains vont avoir besoin d'aide, par exemple.
Oui, je comprends. Mais quand vous dites c'est parce qu'il y a une non-acceptation de soi, il y a une non-acceptation de soi dans l'image que l'on a d'être surpoids, d'être, il faut le dire, le mot. Là.
Ben Jean-Luc, quand on est gros, là, puis on se regarde dans le miroir, en tout cas, puis je ne parlerai pas pour les autres, là, parce que je suis d'accord avec vous qu'on ne parle pas de il y a beaucoup de préjugés, tout ça, mais à un moment donné, tu te regardes dans le miroir puis tu t'aimes pas, puis tu n'aimes pas l'image que tu projettes. Mais c'est plus qu'une image, c'est de dire, regarde, je suis rendu là, c'est de ça que j'ai de l'air, et puis tu disais, ben, un peu à la blague après ma défaite, ben c'est vrai, j'étais Monsieur Baboune, là. Je voyais pas pourquoi que les gens voteraient pour une baboune, là. Donc l'humain réel vient te chercher à un moment donné, puis tu réalises que, écoute, on parlait de diabète tantôt. Les diabètes de type 2, c'est basé sur l'alimentation. Donc c'est sûr que la question de la malbouffe, la question de l'environnement dans lequel tu es, fait en sorte que tu peux avoir ce genre de désordre-là. Mais quand on parle de boulimie comme d'anorexie, c'est des états aussi qui t'amènent à changer complètement ta personne. Puis, il y a une réalité de l'être comme tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Donc, nécessairement, il y a un cheminement personnel que tu dois faire pour arriver à tes objectifs.
Aujourd'hui, quand vous êtes devant le miroir, que vous vous regardez, vous ne voyez pas la même physionomie, mais est-ce que dans votre tête, vous êtes encore un homme gros?
En fait, les Anglais ont une blague, c'est « I'm not half the man I used to be ». C'est sûr que quand je me regarde, honnêtement, je m'aime beaucoup, mais c'est l'intérieur que j'aime aussi. Donc, tu atteins une certaine zénitude, tu viens chercher une capacité. Tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir un certain poids. Si on disait à l'époque qu'on a des gros os, on peut avoir un certain poids, ça ne veut pas dire qu'on pense comme un gros. Puis vous allez remarquer, ceux qui maigrissent beaucoup, par exemple, quand ils croisent les bras, c'est comme s'il y a un repli sur soi, puis on se met les bras sur la bédaine. Mais il n'y a plus de bédaine. Donc, c'est sûr qu'à mon avis, il y a un apprentissage, puis il y a un cheminement. C'est une vigilance de tout instant, parce que on parlait ce matin, les experts de maladies chroniques, est-ce que ça veut dire que c'est un éternel recommencement? Je pense qu'il faut, comme dans le vivre ensemble, c'est l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance. Donc, il y a nécessairement une question de vigilance et puis de peut-être de cheminer, puis de s'aimer comme on est, de se donner des objectifs. Moi, Ali Nestor, Ali les Princes de rue, qui a un gymnase, ouais. La boxe m'a sauvé la vie. Et puis c'était comme un coach de vie. Là. C'est quelqu'un, c'est une vieille âme qui t'encourage. Il y a des gens qui ont besoin d'entraîneurs personnels, d'autres moins. Mais c'est sûr que quand tu te donnes des objectifs, puis des petits pas. Faut pas partir en peur.
Ben, vous avez fait ça vite, vous, là.
Ouais, je le sais, mais c'est dans mon tempérament. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est pour ça que je dis dans
le... ben, je le sais pas.
Ouais, je suis un hyperactif, qu'est-ce que tu veux. Mais ce qui est clair, c'est que faut que tu le fasses à ton rythme, et puis faut pas que tu sois en compétition avec les autres. Alors, quand tu le fais par rapport à toi, pour toi, et puis, c'est là que je dis que c'est toujours un éternel combat entre l'être et le paraître.
Quand vous étiez adolescent, est-ce que vous étiez en surpoids?
Ah, mon surnom à 10 ans, c'était Bouboule. Mais voyez-vous, ce que j'ai réalisé à un moment donné, moi, j'étais très, très proche de ma grand-mère paternelle. Très, ouais. Très proche. Et puis, quand elle est décédée, parce que je viens de la région de Joliette, à Saint-Alphonse, ça a été un traumatisme pour moi. Puis, on dirait que je me suis laissé aller. Et de ce moment-là, ben parce qu'avant, déjà, ils m'appelaient le boxeur, mais j'étais mince, mais déjà là, j'ai commencé à prendre du poids.
Je vous demande ça parce que on parle d'obésité, puis on parle souvent des gens qui auront notre âge, mais il y a de plus en plus d'obésité juvénile, de jeunes qui, à l'école, sont boulés par d'autres parce que c'est pas accepté. Ils sont pas pris dans l'équipe de hockey, ils sont pas pris dans l'équipe de ballon chasseur. Ils sont mis de côté carrément.
Et ben, ça, vous voyez, ça, c'est un problème. Ça, c'est majeur. Puis c'est vrai aussi de regarder du côté des Autochtones. Il y a une réalité dans le Nord canadien, dans certaines communautés. C'est pas une excuse, mais l'environnement dans lequel tu es aussi, des fois, t'amène à avoir certains comportements. Je suis content qu'on parle de maladie ou de désordre plutôt que de préjugés, parce que oui, les préjugés puis l'image qu'on essaie de dire c'est quoi la personne idéale fait en sorte justement que tu t'aimes pas, puis ça contribue à de la pression supplémentaire. Rappelez-vous toute la question des défilés de mode où on voit les femmes minces,
presque
anorexiques, puis c'est grave. Là. Alors les gens se retrouvent pas là-dedans et ils se disent, écoute, c'est moi qui ai le problème. Puis à mon avis, ça vient dans plusieurs cas, contribuer davantage même à s'enfoncer. Alors, c'est sûr qu'on se donne des objectifs et puis...
Denis Coderre, est-ce qu'on commence à perdre du poids d'abord dans sa tête et après dans son corps? Il y a une décision à prendre. Ça doit être comme l'alcoolisme, ça doit être comme les habitudes de drogue ou quoi que ce soit.
Vous avez tellement raison. On dit toujours le début, puis si on parle en termes de maladie, le début de la guérison commence par la reconnaissance. Alors, quand j'ai perdu, ça a été un élément déclencheur.
Ça, honnêtement, c'est un bon uppercut, ça, là.
Ça a été un bon uppercut, mais c'est-tu quoi? C'était comme j'ai toujours dit, c'est pas la défaite électorale qui me travaillait. C'est que là, j'étais rendu avec l'ensemble de la situation que je vivais. Je dis, OK, là, t'es rendu à 55 ans, t'es plus ça garanti. Il faut que tu commences à te reprendre en main. Puis j'ai pris une série de décisions, dont la décision de mon propre corps. Puis aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Mais si... Tu sais, on peut être moody, on peut avoir des OK où on se dit, bon, bonne journée, OK, on perd, puis après ça, tu vas te prendre le double. Mais quand dans ta tête, tu as une certaine prédisposition, tu te donnes des objectifs réalistes, puis là, tu réalises vraiment là, que tu veux apprendre à t'aimer à nouveau, ça fait partie aussi de la réalité. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste une pathologie, c'est pas juste une question physique, il y a une question mentale.
Là, je vais arrêter d'être le gars des affaires sociales et de santé.
Ouais.
Quand on a des objectifs et qu'on les précise, est-ce que dans ces objectifs, maintenant, il y a celui de revenir sur la scène politique montréalaise?
Vous savez, il y a plusieurs façons de faire rayonner la ville que j'aime d'amour. Je sais qu'il y a des choses qui vont pas nécessairement à mon goût. Est-ce que ça veut dire que je vais revenir? Peu importe la décision que je vais prendre, il faut que c'est un corps sain dans un esprit sain. Même dans le travail que l'on fait, le fait d'être en bonne santé.
Je sens le politicien.
La réponse, ça sent
le politicien. Là.
Mais il n'y a plus de cassette, là, Jean-Luc. Il n'y a plus de cassette. Non, mais certainement, j'ai pas pris de décision.
Ah, OK.
C'est sûr que, écoute, j'ai été président de classe en maternelle, comme je dis toujours à la blague. C'est dans mon ADN. J'entends, il y a de la pression présentement, mais je ne suis pas rendu là. J'ai encore beaucoup trop de choses à régler.
Dernière affaire, juste une joke. Avez-vous écouté le hockey hier?
Hey, j'étais tellement content. Je me suis même levé debout quand ça s'est mis à chanter l'hymne national en français.
Il y a des gens qui... J'ai entendu votre critique de dire que c'est effrayant de nous avoir oubliés et de ne pas chanter le Haut-Canada en français, mais la réplique de l'organisation semblait être on essaie de faire en sorte qu'on était chez les visiteurs, donc aux États-Unis et à Pittsburgh, et voilà pourquoi l'hymne national a été chanté en anglais. C'est pas pire comme réponse?
Vous me permettrez d'utiliser un anglicisme, bullshit, parce que s'il y a une place où on chantait dans les deux langues, c'est à Pittsburgh. Hein? On se rappelle du propriétaire Mario Lemieux. Il y a des francophones à l'intérieur. Et puis, si on fait un bout de film, c'est pas parce qu'ils l'ont enregistré le jour même nécessairement. J'ai entendu à plusieurs reprises, comme à Chicago, comme à Pittsburgh, Ottawa. Ben écoute, les francophones, pour moi, c'est important d'être fier de ce qu'on est puis ce qu'on représente. Et puis, à ce moment-là, en plus, c'est le Canada qui reçoit l'ensemble de la Ligue nationale.
Enfin. Alors,
c'est normal qu'on le chante dans les deux langues parce que je suis francophone et fier de l'être.
Ben, merci beaucoup de votre ouverture d'esprit, de votre témoignage sur la situation de surpoids. Et le cas, vous êtes, je pense, un témoignage important qu'on peut régler cette situation-là. Merci beaucoup, Denis Coderre.
Merci. Et je finirai avec une citation de Churchill qui dit que la victoire n'est pas finale, la défaite n'est pas fatale. L'important, c'est d'avoir le courage de continuer. Allez-y, ça va bien fonctionner.
Continuez vous-même, Denis Coderre. Merci beaucoup.
Merci, à la prochaine.
Merci, au revoir. Nous allons parler maintenant à un endocrinologue, un spécialiste de la situation de l'obésité, du poids, des problèmes glandulaires, etc., le docteur Dominique Garel, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour, docteur Garel.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, merci. Vous-même?
Ben, parfaitement bien, tout à fait, merci.
Est-ce que cette déclaration de dire que l'obésité est une maladie va mettre un point final à la discussion et aux préjugés?
Écoutez, il y a très longtemps qu'on espère ça. Parce que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'obésité est une maladie il y a bien longtemps, il y a beaucoup d'années. Et chez nous, on se traînait un peu les pieds, si je puis dire. Et l'une des raisons pour lesquelles les gouvernements n'aiment pas trop entendre ça, c'est que la phrase suivante, ça va être « puisque c'est une maladie, il faut la soigner ». Et puisqu'on la soigne, il faut que dans notre système de santé publique, les gouvernements assument les frais de ces traitements. Or, aujourd'hui, les gouvernements n'assument aucun frais du traitement médical de l'obésité, zéro. Ils n'assument aucun changement d'habitude de vie guidé par des équipes multi, ce qui est la recommandation des experts. Ils n'assument aucun frais des médicaments, et il y en a maintenant qui sont extrêmement efficaces et sécuritaires. Bref, il y a une révolution à faire de façon à ce que non seulement on dit que c'est une maladie, mais on dit on va s'en occuper, on va la soigner.
Si on regarde ça, docteur Garel, en dehors de la dimension, j'allais dire, de l'administration de cette maladie par les équipes et les gouvernements et les ministères, est-ce que cette maladie, on peut la guérir, on la traite, mais on demeure toujours une personne avec une tendance à l'obésité?
Tout à fait. C'est une maladie chronique. C'est pas la grippe, là. C'est une maladie chronique, donc on a toute sa vie. Et la raison de cela, c'est que les déterminants génétiques du poids corporel, c'est de l'ordre de 70%. À savoir, la plus grande partie des variations du poids corporel dans une population sont dues à la génétique. Et on sait ça, d'ailleurs, depuis assez longtemps, et notamment grâce aux travaux qui ont été faits par le docteur Bouchard à Québec. Donc, travaux qui ont été faits sur des jumeaux identiques. Non seulement la propension à prendre du poids est génétiquement déterminée, mais aussi la facilité ou la difficulté à perdre du poids en régime hypocalorique, elle aussi est très fortement génétiquement déterminé.
De là l'expression populaire de bien des gens, on entend ça des fois. Moi, je fais juste à regarder le plat puis j'engraisse.
Absolument, tout à fait. Ça reflète l'importance du facteur génétique. Maintenant, attention, ce n'est pas une malédiction le fait que ce soit génétique, parce que la maladie, c'est l'interaction entre la génétique et l'environnement, comme a très bien décrit M. Conner. Il faut un environnement obésogène, nous l'avons. Et on a aussi un exemple magnifique de cette réalité, c'est les autochtones qui s'appellent les Pimas, les Indiens Pimas qui sont au Nouveau-Mexique et au Mexique. Donc la moitié de la population est en Amérique, aux États-Unis, dans un environnement obésogène, et puis les trois quarts sont obèses et la moitié sont diabétiques. Et du côté mexicain, où ils sont très très pauvres, ils n'ont pas d'environnement obésogène, il n'y a presque pas d'obésité, presque pas de diabète. Donc il faut que le programme génétique soit exposé à un environnement obésogène pour que cette propension à l'obésité se développe. Et c'est exactement ce qu'on voit dans nos pays.
Il y a une dimension psychologique importante à mon point de vue, parce que si on détermine que c'est une maladie, on va cesser de prétendre que les gens qui sont en surpoids et ou obèses, et je vous demanderai tantôt de faire la différence entre l'obésité et le surpoids, de se faire traiter de tous les noms, d'être mis au rancard, de dire « fais donc de l'exercice, puis mange moins, tu vas maigrir, t'es juste un gros porc », etc. J'ai tout entendu ces commentaires-là qui sont épouvantables. On ne dirait pas ça de quelqu'un qui a une autre maladie. Dire, oui, t'es juste un cancéreux, on dit pas ça.
Oui, et puis ajouter à cela l'immense marché de l'escroquerie à l'obésité, où il y a toutes sortes de charlatans qui vendent toutes sortes de produits qui sont totalement inefficaces et parfois dangereux, et on laisse faire. Et si ces gens-là s'attaquaient au cancer du sein ou à la crise cardiaque, ils seraient immédiatement poursuivis. Là, non, la société laisse faire, parce qu'on n'a pas pris conscience que l'obésité était une maladie. Donc c'est un premier pas. Je pense que c'est une excellente nouvelle qu'enfin il y a cette prise de conscience, mais il va falloir que le reste suive, qu'on se mette à se comporter comme société en face de cette maladie, comme on le fait pour les autres.
Quand est-ce que je n'ai que du surpoids et quand est-ce que je suis obèse?
Alors ça c'est une question. En médecine, on aime bien les chiffres et on aime bien catégoriser les choses. Mais il ne faut pas oublier que, évidemment, par définition, on appelle obèse quelqu'un dont l'indice de masse corporelle, ça c'est le poids en kilos divisé par la taille élevée au carré, dépasse 30.
Un instant, donnez-moi la formule.
Voilà, vous prenez, c'est le poids en kilogrammes.
Oui, mon poids en kilogrammes.
Divisé par votre taille en mètres.
Ma taille en mètres.
Et élevé au carré.
Et le résultat de ça, je mets ça au carré.
Voilà. Non, vous élevez au carré votre taille.
OK, d'accord.
Et vous divisez votre poids par...
Ma taille au carré.
C'est ça.
Et mon poids en kilo divisé par ma taille au carré.
Voilà, exactement.
Parfait. Et là, je suis supposé d'avoir quoi comme résultat?
Alors, idéalement 25,
ouais.
Entre 25 et 27. Si vous êtes entre 27 et 30, on dit que vous êtes en surpoids.
Ouais.
Et si vous êtes au-dessus de 30, vous êtes obèse. Et si vous êtes au-dessus de 40, vous êtes obèse, on dit morbide, on devrait dire massif, mais bon, les Américains disent morbide, donc on dit morbide. Et là, c'est la chirurgie qui est recommandée.
La chirurgie bariatrique?
C'est ça, exactement. Parce que le gouvernement va payer la chirurgie bariatrique, à quelqu'un qui a un indice de masse corporelle de plus que 40, ou de plus que 35 s'il est diabétique.
Est-ce qu'on doit travailler à perdre du poids ou si on passe... Parce que ça me fait penser un peu à l'esthétisme, vous savez. Ah ben, je vais faire attention, tu sais, je vais aller me faire une liposuction. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que quand on a ce poids-là, on dit, ah tiens, plutôt que de me mettre au régime, je vais aller me faire une chirurgie bariatrique?
Non, la chirurgie bariatrique fait partie d'un traitement global. À elle seule, on le voit maintenant de plus en plus, elle n'est pas la solution. Si vous faites une chirurgie bariatrique sans avoir travaillé sur les habitudes de vie, 4 à 5 ans après, beaucoup de gens reprennent leur poids. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il faut absolument que le traitement des habitudes de vie soit constamment mis en place, chirurgie ou pas chirurgie. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ils prennent la chirurgie comme une solution finale. Une solution finale, ce n'est pas vrai du tout. Il faut absolument que les habitudes... Et ce n'est pas facile. Les habitudes, parce que le traitement de l'obésité, c'est un traitement chronique. Donc, ce n'est pas une diète, ce n'est pas 6 mois ou 1 an d'efforts énormes. C'est un changement d'habitude qui fait que, spontanément, on va s'alimenter avec des aliments qui sont peu riches en calories. Ça, c'est difficile à faire. Ça prend du travail, ça prend du temps, ça prend de l'expertise. Et là aussi, il faut payer cette expertise. Et comme le gouvernement ne le paye pas, ben, les gens qui ne sont pas assurés ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas assumer les frais. Donc, on a une barrière financière à ça.
Ce qui est épouvantable, c'est qu'un ministère de la Santé ne reconnaisse pas l'obésité comme une maladie, honnêtement. Là. Alors que c'est probablement ce qui est le plus répandu en Amérique présentement, le problème de l'obésité.
Tout à fait. Et, mais il y a des pays qui sont quand même plus actifs que nous. Par exemple, en Angleterre, les gens qui se font opérer, le gouvernement paye, comme chez nous, la chirurgie bariatrique. Mais par contre, le gouvernement ne paye pas la chirurgie bariatrique si la personne n'a pas fait au moins 6 mois de travail sur ses habitudes de vie. Et ces 6 mois de travail sur ses habitudes de vie sont payés par le gouvernement. Donc, vous voyez, il y a quand même des endroits où on est conscient de l'importance du travail sur les habitudes de vie. À long terme, c'est la seule garantie. Et c'est une garantie. Et ce n'est pas 100%. Il faut voir que nos résultats actuels du traitement de l'obésité sont pas très bons. Ils sont beaucoup moins bons que dans les autres maladies chroniques, comme le diabète, par exemple. Donc, on a beaucoup de progrès à faire. Mais on en fait. De plus en plus, on a des produits pharmaceutiques qui sont en fait des substances qui sont déjà dans le corps, qui sont des substances hormonales, qu'on s'injecte.
C'est pas les pilules coupe-faim là, qu'on peut acheter sur Internet.
Non,
là.
Non, ça c'est pas de ça que je parle. Okay. Je parle de produits qui sont des petites protéines qui sont fabriquées par l'intestin et qui signalent au cerveau qu'il faut arrêter de manger ou qu'il faut moins manger. Et maintenant, on commence à bien connaître ces mécanismes. On commence à avoir des produits qui sont donc des injectables, parce que ce sont des protéines, sont des injectables et ils sont de plus en plus. On va, je pense, vers des produits dont l'efficacité sera comparable à la chirurgie bariatrique. On commence à voir ça.
Merci beaucoup, Dr. Dominique Garrel, endocrinologue et spécialiste, évidemment, de ce domaine, entre autres choses. Merci de votre participation.
Très bien, bonne journée.
Merci, vous aussi, bonne journée. Ben là, c'est vous qui allez participer, parce que je veux connaître si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, avez-vous été victime de préjugés, d'attaques, de bullying? Est-ce que vous croyez que le modèle que je vous ai présenté, je vous parle pas des qualités de Coderre, je vous parle de sa persévérance à revenir dans un poids normal pour éviter la morbidité. Le 1-514-790-9850. Pour la grande région de Montréal et à l'extérieur de la région de Montréal, le 1-866-790-9850.
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Vos commentaires, vos réactions, vos expériences. Liliane est avec nous. Bonjour Liliane.
Bonjour M. Mon Grain, ça va bien?
Bien, merci. Vous-même?
Oui, ça va très bien. Je voulais dire quelques mots parce que j'ai écouté le docteur Garrel. Je l'avais vu à la télévision il y a quelques années.
Oui.
Et ça m'avait donné un gros coup de savoir que ce que je croyais banal était en fait 70% de mon corps qui savait déjà comment réagir. Alors moi, je suis toujours une obèse à l'intérieur, mais plus à l'extérieur. J'ai perdu 115 livres en 2 ans et demi. Je le maintiens depuis bientôt 6 ans. Mais c'est un combat quotidien. Exactement comme un alcoolique, exactement comme un toxicomane.
Alors, donc, ce que je trouve intéressant de ce que vous me dites, d'abord, je tiens à vous féliciter, mais en même temps, il y a un côté qui est moins bon en félicitant les gens de ça. C'est votre réalité, vous l'avez vécu, et je vous félicite pas d'avoir la difficulté de toujours être dans votre tête comme un obèse. Je veux comprendre la problématique et vous l'exprimez très bien en la comparant à d'autres dépendances. Il y a une dépendance à la nourriture. Mais en partant de là, il y avait préalablement un milieu propice à ce que vous deveniez obèse parce que, au point de vue glandulaire, vous aviez un problème.
Oui, j'ai toujours été obèse. J'ai perdu peut-être 250 livres dans ma vie. Je le perdais à coup de 50, 60 livres. Et tout doucement, sur 5, 6 ans, je le reprenais. C'était pas très vite, mais c'était quotidien.
Étiez-vous une autre mangeuse? Est-ce qu'on mange plus?
Non. Je suis une autre mangeuse. C'est bien évidemment c'est la même chose qu'un alcoolique, un toxicomane. Je vais manger mes émotions. La même chose. Et souvent, lorsque j'étais en perte de poids, même maintenant, je suis en maintien, quelqu'un m'offre un beau gros morceau de gâteau quand j'ai dit non en insistant. Je vais leur dire gentiment, est-ce que tu offrirais un verre à un alcoolique sobre? Non, j'oserais pas. Mais pourtant, tu le fais avec moi.
Qui est un dessert. Merci beaucoup, Liliane, de votre témoignage. Ça établit énormément le sujet. Bonjour, Hugo.
Bonjour, M. Mongrain, ça va bien?
Bien, merci, vous-même.
Oui, très bien, merci. Ce sujet-là vient me chercher quand même beaucoup ce midi. C'est que j'ai, moi, depuis 5 ans, j'ai à peu près perdu 80 livres environ.
Oui.
Et puis, en étant un homme aussi, on a une problématique et une... Dans la réalité d'aujourd'hui aussi, on est beaucoup exposé, comme la gente féminine aussi, à tout ce qui est stéréotype masculin, du corps parfait et tout, puis nous aussi, on est, comme moi, je peux pas parler pour moi, j'ai été très prédisposé à pas vraiment aimer mon physique par rapport à ce qu'on voyait, par rapport à les sportifs et la mode et tout ça, et tout ça. Et puis, comme la madame a dit avant moi, tu t'as beau perdre 100, 150, 200 livres, quand tu n'as pas confiance en toi, puis que c'est jamais assez.
Je comprends très bien. Ça veut dire que vous avez découvert que vous aviez un manque de confiance en vous, dans votre personnalité, indépendamment de votre poids, mais que le poids a fait en sorte que ça a multiplié votre manque de confiance en vous, de sorte que il vient un temps, tu dis, ça vaut-tu vraiment la peine que je change? Je suis moins que rien.
Exactement. Puis plus que tu perds, plus que tu veux. Tu sais, plus que tu perds, plus que tu veux en perdre, mais c'est jamais assez quand tu es dans ce. Cet état d'esprit-là.
C'est la pente inverse, oui, c'est ça.
Exactement, puis c'est là que ça devient dangereux, parce que c'est là que les problèmes de nutrition arrivent, et la maladie, comme l'anorexie ou la boulimie ou whatever, puis c'est ça, même pour le côté masculin, c'est présent aussi, puis c'est un combat au quotidien, c'est pas évident. Donc,
sa valeur propre, notre propre valeur ne se mesure pas à celle des autres. Vous avez votre potentiel à vous et c'est ça qui doit être maintenu et c'est là-dedans que vous devez investir et non pas de ressembler à l'autre. Parce que moi, je vais vous dire une chose, si j'avais fait ça, je suis très loin de Brad Pitt. Très, très, très loin. Merci.
C'est un travail, merci, mais c'est un travail d'une vie.
Tout à fait. C'est le travail d'une vie. Tout à fait. Mais je vous dis qu'à un moment donné, on arrive à un palier. Moi, quand j'étais petit, je mesurais 4 pieds 10 jusqu'en secondaire 2. 4 pieds 10, 4 pieds 11, je pesais 95 livres. Je vais vous dire une chose, c'était le contraire un petit peu. Hein?
Ouais, c'est ça.
Mes blondes étaient assez rares. Merci beaucoup, Hugo. Merci bien. Oui, bonjour. Je parle à Martin. Bonjour, Martin.
Salut, Jean-Luc. Ça va bien?
Très bien. Vous-même?
Yes, super bien. En fait, moi, j'aimerais juste te mettre un petit bémol, en fait, là. Au niveau du calcul, oui, c'est vrai que, tu sais, bon, c'est une bonne généralité, mais moi, je te donne un exemple, moi, exact. Je suis à 5 et 11 demi, je pèse 255 livres. Oui, j'ai une petite bédaine en tant qu'elle, mais je suis très, quand même, musclé. Puis, tu sais, je me considère pas comme une personne obèse, mais si j'ai fait un calcul, je serais à 30, justement, là. Je serais plus ou moins...
Drette ça à la ligne.
Ouais, exactement, tu sais. Puis, tu sais, c'est un gars qui est justement qui travaille physiquement et tout ça. Je me considère pas comme obèse. Puis je pense que le fait de se baser juste sur, justement sur une formule comme ça, ben je pense que ça peut amener aussi à ce que du monde peut justement. Moi, je me voyais pas comme obèse, mais là, en faisant un calcul, finalement, ben, faut croire que je le suis peut-être, là.
Où je vous rejoins, mais faites attention, une formule demeure une formule. Exact. Mais honnêtement. Je pense que tout le monde court après un petit 5 livres à perdre, là, tu sais.
Oui, mais il y a une différence à courir après un 5-10 livres puis être considéré comme obèse selon...
Mais vous, là, je vous le dis, vous êtes sur la clôture. Fait que prenez pas de poids parce que la clôture va péter, là.
Exact.
Fais attention à toi.
Faut faire attention. Merci beaucoup.
Ciao, bye-bye. Avec qui je parle? Bonjour, Patrick.
Bonjour, M. Morgane, ça va bien?
Bien, vous-même?
Ben oui, je voulais juste, moi, dans le fond, parler par rapport au IMC. C'est sûr que on parle beaucoup de grandeur par rapport au poids. Moi, je suis quelqu'un qui est 6 pieds 3. Là, je suis rendu à 300. J'étais à 376 il y a 3 ans, à peu près. J'ai perdu 76 livres.
Bravo.
Mais le petit défi, c'est d'avoir des assurances-vie. Les compagnies d'assurance-vie, les compagnies d'assurance, quand ils regardent, dans le fond, pour être assurés, ils regardent beaucoup l'IMC. Mais ils ne regardent pas non plus la composition de notre corps ou la façon qu'on est fait. Il y a trois types là, de corps. Il y a l'ectomorphe, qui est le petit. Les petits os, le mésomorphe, qui est la personne moyenne.
Moyenne.
Puis il y a l'endomorphe, qui est un peu comme moi.
Ouais.
Il y a des gros os.
Ouais.
Puis quand je regarde l'IMC à 6 pieds 3, il faudrait que je pèse à peu près 195 livres.
Oui, mais...
Là, j'en pèse 300.
Je veux juste vous dire...
195 livres, moi, je suis une boîte de bois, là.
Je comprends. Mais savez-vous ce qu'ils assurent? C'est pas vous qu'ils assurent. Ils assurent le risque. Une compagnie d'assurance, ça assure le risque. Et statistiquement, les gens qui sont en surpoids d'obésité sont des gens qui ont un plus gros indice de morbidité, c'est-à-dire plus de chances de mourir. Fait qu'eux autres, ils regardent ça, ils se fichent pas mal de Hugo, là. Ils regardent ça, puis ils disent, nous autres, là, en haut de 300 livres, un gars qui mesure 5 pieds 10, 5 pieds 11, 6 pieds 2, on s'en fiche. Le gars, il est un risque pour nous. Puis, Patrick, c'est-à-dire. L'assurance dit, bon, ben nous autres, là, excuse, mais un, ça coûte plus cher, puis deux, il est plus à risque, donc peut-être qu'on ne l'assure pas. C'est comme le gars qui a eu 12 accidents d'auto, on va vous dire de quoi, qu'il cherche sa compagnie d'assurance pour assurer son char, il va trouver ça assez compliqué. Votre situation de santé personnelle doit être évaluée, mais il ne faut pas que vous preniez des assurances comme étant la mesure de la santé. Eux autres, c'est une mesure de risque qu'ils prennent. Merci. On s'arrête pour une pause et on poursuit tout de suite après.